Merci d'écouter Inter, 18h17.
This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Tunisie et en Russie, ailleurs dans le monde tout à l'heure avec Michael Thébault. Un jour dans le monde numérique, Weibo, QR code et 3310. N'ayez pas peur, Julien Baldacchino vous expliquera tout. 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Rendez leur liberté aux Grecs, nous dira Arnaud, mais tout de suite la Méditerranée.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Quand la Méditerranée nous submerge, c'est le titre du livre de notre invité ce soir aux éditions de l'Aube. La Méditerranée où se reflètent beaucoup des grandes questions politiques et géopolitiques aujourd'hui. Peut-être les questions les plus importantes d'ailleurs. Réfugiés qui tentent de la traverser, islam sur les deux rives de cette mer, terrorisme. La Méditerranée est un carrefour qui peut légitimement faire peur. Jean Viard, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue CNRS Cevipof. Le verbe est fort, Jean Viard. La Méditerranée nous submerge. Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire.
Mais la période est terrible. D'abord, il y a 5000 personnes qui se noient tous les ans en Méditerranée. Enfin, c'est inimaginable. Je veux dire. Des familles entières, des enfants tous les jours. Bon. Et quelque part, ça nous fait moins sursauter quand Trump dit qu'il veut faire un mur. Moi, je préfère les murs quant à faire plutôt que les cimetières marins. Donc, si vous voulez, on sait tous attaquer Trump sur son mur. Et qu'est-ce qu'on fait là? Et puis, il n'y a pas que ça, si vous voulez. C'est qu'au fond, la Méditerranée, l'Europe s'est construite contre le communisme. L'Europe s'est construite pour faire la paix contre le communisme. Et c'était bien. Sauf que le communisme a disparu. Donc, quel est le sens du projet? Et aujourd'hui, la question de l'Europe, c'est son sud. La question de l'Europe, c'est le monde islamique dans sa crise, une partie de sa crise, ou la crise de ses pays. C'est la démographie en Afrique. Donc, je veux dire, l'Europe, si elle veut trouver un avenir, on peut pas passer sa vie à attendre qu'il y ait 5000 se noient, 10 000 se noient, 20 000 se noient. Ou est-ce qu'on se dit, ils ont besoin de biens publics, on a les entreprises pour le faire. Dans nos quartiers, ces jeunes qui manifestent en ce moment, ils sont biculturels. Ils sont français, qui restent français, tant mieux. Mais ils ont deux savoirs. Utilisons les savoirs, donne-leur les formations pour qu'ils travaillent avec Bouygues, pour qu'ils travaillent avec Vinci, la Lyonnaise des Eaux, enfin tout ce que vous voulez, y compris les industries militaires et l'agriculture, qui est un enjeu majeur d'équiper l'Afrique. Donc si vous voulez, ayons un grand projet plutôt que de reculer, de faire du petit front national soft, c'est un peu ce qu'on fait, quoi.
Alors on va y venir en détail, Jean Viard. Est-ce que ce livre est le premier livre désenchanté que vous écrivez sur la Méditerranée, sur cette région?
Je suis jamais un type désenchanté, je veux dire.
Oui, mais c'est pour ça que c'est étonnant. Ça sous votre plume.
Parce que, si vous voulez, moi, je me suis beaucoup engagé en 95, quand Toulon est devenu Front National, on avait monté des grandes rencontres, il y avait Alain Touraine, il y avait Jacques Le Goff, on a beaucoup réfléchi, il y avait des hommes politiques de droite et de gauche, c'était déjà ça, il y avait Liotto, il y avait...
Oui, mais Lyotard, là, vous avez pris un coup sur la tête, hein, quand
oui,
même.
Parce que, voyez ce qui se passe, je veux dire que, si vous voulez, il y a effectivement la montée des populistes qui se prennent le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir à Washington, ils ont pris le pouvoir à Moscou, ils ont pris le pouvoir d'une autre manière en Turquie, ne parlons pas du Brexit. Donc, le monde est en train de se refermer parce que ceux qui disent « fermons la porte » sont en train de gagner. Or, c'est absurde, parce que le réchauffement climatique, je veux dire, c'est même pas possible au sens où le réchauffement climatique, il existe, où l'Afrique, ils vont être 1,5 milliard, et que de toute façon, quand il y a un tel déséquilibre des populations dans l'histoire humaine, ça finit toujours par passer. S'ils n'ont pas d'avenir chez eux, ils viendront chercher chez nous.
Vous posez très vite, Jean Viard, la question, et si l'extrême droite avait vu émerger le problème avant tout le monde? Le problème méditerranéen aujourd'hui, qui est social, politique, religieux, un problème de sécurité également. Vous y allez là, de front. Vous reprenez la question là où l'extrême droite la laisse.
Mais il faut y aller de front, si vous voulez. Moi, quand je voyais en 95 à Toulon, on n'était pas tellement nombreux à venir beaucoup dans les associations, tout ça, quand la ville était Front National, les gens étaient très désarçonnés. Moi, j'entends aussi quand les pieds noirs me disaient « Oui, mais enfin, vous êtes bien gentils, mais nous, ils nous ont fait partir d'en face et maintenant, ils viennent chez nous. » Je dis pas qu'ils avaient raison, je dis que j'entends ça, parce que, bah, effectivement, pour une partie des pieds noirs, c'est une vraie question. Moi, je pense, si vous voulez, que... Mais je suis pas le seul à le dire, je veux dire, hein, qu'au fond, il faut regarder la question qui nous est posée l'angle de la mondialisation. La mondialisation, c'est pas une démocratie. C'est un univers girondin, où il y a des grands ensembles culturels qui font comme des grandes plaques. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a les groupes de Kent, les Pélénois, l'Australie, les États-Unis, il y a l'Afrique noire. Et au fond, il y a le monde des monothéismes. On n'est même pas 1 milliard, on est une petite Chine. Là, on a la même culture politique. C'est ça, pas la même culture religieuse. Mais je pense que les monothéismes nous ont donné des cultures politiques de conquête. C'est pour ça qu'on a tous fait des empires, que ce soit les Turcs, les Russes, les Portugais, et on a fait la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a réunifié l'humanité. Et on a ouvert au nouveau temps du monde, où l'humanité est inséparable. On peut faire des endroits, on peut régler les flux, il y a des, je ne sais pas du tout pour que tout soit ouvert, mais définitivement, l'homme vivra avec l'homme par les moyens de communication. Mmh. Et ça, c'est la nouvelle époque du monde, et il faut y aller à l'offensive, parce que si on recule, à un moment, on va couler.
Mais alors pourquoi, vous connaissez cette vieille formule du débat politique, le Front National dit certains hommes politiques posent les bonnes questions mais n'apportent pas les bonnes réponses, pourquoi vous reprenez la question telle qu'elle se formule à l'extrême droite ?
Mais parce que je refuse, il n'y a pas que l'extrême droite, vous savez, je vais vous dire, les discours racistes, moi j'ai été élu à Marseille, je ne les ai pas entendus qu'à l'extrême droite. Il ne faut pas rêver. Je veux dire que...
Donc c'est important de partir de là.
Oui, c'est important
c'est
de partir du fait...
C'est ça le sens commun aujourd'hui.
Qu'en gros, les Français ont une culture moniste, ils sont pas fondamentalement racistes, mais ce qu'ils aimeraient, c'est que les jeunes de banlieue, quand ils sont passés par l'école, on les voit blonds, et on les voit blancs, et on les voit catholiques. Or, il se trouve que ça, l'école ne sait pas le faire. On peut leur donner ou pas des études, on leur donne d'ailleurs plus qu'on ne le dit, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, mine de rien, qui s'intègrent dans la société, et pas toujours à des mauvaises places, mais ils restent bronzés ou noirs ou musulmans. C'est-à-dire, nous, on a en France l'idée, d'ailleurs, on appelle ça les quartiers. Avant, on appelait ça des faubourgs. Dans les autres pays, on n'a pas l'idée que c'est des quartiers. Parce qu'on sait que c'est là où passent les gens qui arrivent, qui mettent une, deux, trois générations, qui s'en prennent un peu plein la gueule, et puis qui rentrent dans la société. C'est ça le rôle des faubourgs. Et si vous voulez, nous, on voudrait, en gros, qu'ils ressortent gaulois. Et donc, parce qu'on est un pays moniste, au fond, parce qu'on n'a pas accepté la diversité dans notre structure culturelle profonde, et que depuis la fin de la guerre d'Algérie, on a exclu, si vous voulez, on a cru qu'on avait exclu les Arabes et les musulmans de la France, parce qu'on avait fait, on avait séparé la Méditerranée. Et c'est pas vrai. C'est évidemment pas possible. Donc il faut accepter la puissance de la diversité. C'est pour ça que je cite toujours l'exemple du peuple corse. Je dis, si vous êtes capable de parler du peuple corse sans avoir une attaque d'apoplexie, un jour vous serez capable de parler évidemment des musulmans.
Comment répondre politiquement à la situation inquiète, voire anxiogène que vous décrivez ?
Vous savez, il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est l'Allemagne. Ils ont pris, comme on dit, 1 million de Syriens, c'est-à-dire de musulmans. Ils en avaient déjà pas mal avec les Turcs. Qui c'est qui va reconstruire l'Irak et la Syrie ? Les Allemands. Qui c'est qui va aller vers le développement du Sud ? Les Allemands. D'ailleurs, c'est déjà la première puissance économique en Méditerranée. Donc, d'un coup, il y a un nouvel axe franco-allemand qui peut être de structurer le Sud. Alors qu'avant, on n'était évidemment pas là-dessus. La position de l'Allemagne, la nouvelle position de l'Allemagne, qui, avec ce million de Syriens, les nouvelles, il faut voir, c'est des familles, c'est des liens, c'est des gens qui ont fait des études, ils ont des sœurs, des cousins, des grands-parents, etc. C'est du lien. Et donc, forcément, ça va retourner l'Allemagne vers le Sud. Donc, la France doit porter avec l'Allemagne cette idée qu'effectivement, l'Europe doit organiser son Sud pour qu'il se développe, pour que nos entreprises en bénéficient, nos jeunes s'intègrent, et qu'aussi, effectivement, la paix revienne. Parce que on peut attendre quoi ? La guerre va aller d'un pays à l'autre, sinon.
Donc, c'est la France qui est aux avant-postes, de par sa position géographique.
On a été aux avant-postes pour faire venir l'extrême droite. On a pris un leader de l'Algérie française qui a créé le Front National. Là, on était déjà, tout le monde dit, c'est les Français, ça. Bah, il se trouve que malheureusement, maintenant, tout le monde a le même type de produit, si on peut dire, sur le marché. Et donc, on a été aux avant-postes. Je pense qu'on a une responsabilité particulière. J'ai bien aimé qu'Emmanuel Macron aille en Algérie pour lancer sa campagne. Je veux dire, l'Algérie, c'est aussi important pour nous que l'Allemagne dans nos rapports. Ce sont nos voisins. On ne peut pas faire l'Europe en étant en conflit avec tous nos voisins, les Anglais, les Arabes, les Turcs, les Russes. Dans l'histoire de France nous apprend qu'il faut toujours diviser nos ennemis pour pouvoir avancer.
Jean Viard, pour le dire encore autrement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux rives de la Méditerranée, à part la Méditerranée elle-même ?
La culture grecque. Quand vous prenez le Coran, les traductions de Youssef Seydi, son livre, effectivement, nous n'avons jamais lu le Coran, j'aime beaucoup ce penseur tunisien, il montre bien que même le Coran est à racine grecque. On est des monothéistes bâtis sur la culture grecque. Après, on a des différences, mais fondamentalement, par rapport aux autres qui ne connaissent ni la Grèce, ni le monothéisme, la Grèce au sens philosophique du terme, ni le monothéisme, on fait un tout. Si vous prenez l'Inde, la Chine, c'est pour ça qu'il faut penser dans la mondiale. On a des différences, évidemment. Il y en a qui sont plus archaïques sur quel sujet. Il y a une montée des réactions, notamment contre les femmes dans certains pays du Sud, etc. Je ne suis pas naïf. Je vois bien ce qui se passe en Turquie. Mais fondamentalement, à terme, c'est cette partie-là du monde. Soit on va être unifié, soit on va être chacun replié derrière notre petit mur.
Mais il faut attendre que la mondialisation fasse son œuvre.
Mais elle le fait. Vous savez, regardez ce qui est en train de se passer avec Trump. Il y a des tas de côtés négatifs, je ne vais pas faire l'éloge de Trump, ça serait vraiment maladroit, et en plus je ne le pense pas du tout. Mais il se referme. L'Occident est en train de se casser. C'est ça quand je dis la mondialisation sera girondine, ça veut dire qu'il y a des grands ensembles culturels qui sont des plaques, on pourrait le dire comme ça, quoi, j'ai cité, je ne vais pas y revenir, et qui vont négocier. Heureusement qu'il n'y aura jamais un chef de la planète. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Vous vous rendez compte, la dictature, ça serait monstrueux. Donc la planète ne sera pas non plus démocratique. On ne va jamais donner le droit de vote. Ça voudrait dire qu'il serait asiatique, excusez-moi, mais il y a 2/3 de l'humanité en Asie. Donc ce n'est pas nous qui allons revendiquer une démocratie planétaire. Donc la planète, ça sera toujours un rapport de force entre des grandes cultures. Nous, la question, il faut que notre culture monothéiste, notre euro-méditerranée, qui fait moins d'un milliard de personnes, soit capable de faire poids avec les autres.
Votre livre est très précis, Jean Viard, et formule de très nombreuses pistes pour faire de la politique, refaire de la politique en Méditerranée. Le problème, c'est que le populisme va plus vite, non ?
Oui, le populisme va plus vite, mais en même temps, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Les démocrates ont quand même beaucoup plus de voix. Sauf que peut-être qu'ils auraient pu renouveler, peut-être qu'ils auraient pu mettre de nouveaux candidates. Si vous voulez, peut-être que cette idée des grandes familles dominantes, mais c'est pareil avec ce qui arrive à M. Fillon, c'est-à-dire à un moment, on ne veut plus de gens qui sont là depuis 40 ans. C'est vrai dans les différents. Alors après, les populistes gagnent toujours comme ça. D'ailleurs, Hitler a aussi été élu par minorité, si on peut dire. Il n'a jamais eu de majorité. Donc quand je dirais les démocrates sont mauvais. Quand ils ne font plus rêver, effectivement, les autres en profitent. Oui, on ne fait pas rêver sur la mondialisation. Il faut dire que la réunification de l'humanité est une période extraordinaire qui nous donne une force. On lit des livres chinois, on lit des livres indiens, on voit des cinémas, des films iraniens. Mais ça n'existait même pas quand j'étais jeune. Alors, vous êtes plus jeune que moi. Donc, tout ça, il faut le mettre. On invente un vaccin. Je veux dire, dans l'année, il est répandu sur l'ensemble de la planète. Donc, si vous voulez, il faut faire une utopie positive, écolo-démocratique, si on peut dire, de cette mondialité. Si la gauche ne fait pas cette utopie, si la gauche dit qu'il faut faire des murs, eh ben, qu'ils fassent des murs. Mais ces murs, c'est pas eux qui gagneront. Il y a des fabricants de murs beaucoup meilleurs qu'eux.
Vous êtes minoritaire sur cette position aujourd'hui, non?
Oui, évidemment que je suis minoritaire. Quand je dis effectivement, et d'ailleurs, quand je dis effectivement, il est temps d'aller de l'avant, on a pris l'habitude de reculer. Regardez qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans dans les quartiers. Rien. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils se disaient, mais si on fait quelque chose, le Front National va progresser. Mais à force de ne pas mener de combat, de projet, il y a quand même, regardez ce qui se passe dans les quartiers. Bien sûr qu'il y a les violences là. Mais combien il y a de jeunes qui vont partir en Syrie après les violences d'aujourd'hui? C'est-à-dire que tout est lié. C'est la même question. C'est-à-dire, si on ne peut pas vivre sans utopie, on ne peut pas vivre sans rêve, ou alors on revient dans les rêves du passé, on retourne des arcanes religieux, ethniques, ou des nationalismes, etc. On peut refaire ce qu'on a fait en 14. On peut refaire la guerre. Sauf qu'en 14, l'équilibre écologique a permis presque un siècle de guerre. Je suis pas sûr qu'on ait un siècle pour se taper dessus et que la planète va le supporter d'un point de vue écologique.
Est-ce que la Méditerranée peut encore être ce rêve, Jean Viard ?
Mais c'est pas la Méditerranée, c'est le fait...
L'espace méditerranéen.
Oui, et puis l'Afrique derrière. Mais il est clair que nous, on a 2 points d'appui, c'est quand même le Maghreb et la Turquie. D'abord parce qu'on a des accords avec eux, parce qu'on a donné notre parole en 62 à l'Algérie qui aurait la libre circulation, parce qu'on a dit aux Turcs qu'il y aurait la libre circulation. Si on commençait par tenir nos paroles avec ces pays du Sud qu'on ne fait pas, si on commençait à faire 13 grandes mosquées, moi je plaide pour des grandes mosquées dans cette région, il faut donner du respect à la religion musulmane. On ne peut pas avoir des gens qui ne sont pas respectés alors que c'est une des grandes religions françaises. Je veux dire, tout ça c'est la même question. C'est en donnant du respect ici et en faisant un projet pour les jeunes de nos quartiers, pour nos entreprises vers le Sud, que petit à petit, on va se réunifier sur un projet positif. Je suis pas naïf, vous savez, je connais les violences de tout ça. Mais je crois simplement qu'en ce moment, on a trop laissé se faire, on fait du FN dur ou du FN soft.
Vous n'êtes pas naïf, mais est-ce que vous êtes inquiet?
Bien sûr que je suis inquiet. Je veux dire que, moi, vous savez, ces gens qui se noient tous les jours. Moi, je suis Marseillais. La Méditerranée, c'était les vacances, c'était la culture, c'était le. On avait une vision positive de cette mer. On n'avait pas l'idée de voir des cadavres flotter sur les plages ou des gens assassinés à Nice quand ils étaient à une fête. Donc, si vous voulez, c'est des endroits, cette Méditerranée ne va plus être désirable. Et ça, c'est aussi, ne fût-ce que d'un point de vue de notre économie, nos intérêts. Enfin, le tourisme, c'est un acteur central de ce territoire. C'est lui qui réunit les hommes, qui fait que, par regarder le tourisme en Tunisie, il a redémarré cette année. Donc à nouveau, il y a du lien. Le tourisme est un lien fantastique. Donc qu'il y a des défauts, tout ça, je suis d'accord. Mais d'abord, c'est un lien. Donc si vous voulez, là-dessus, si on ne remet pas les choses en avant, on va avoir de plus en plus de noyés et de plus en plus de violents. Et je vais vous dire, nos valeurs font qu'à un moment, on ne va plus l'accepter. C'est-à-dire qu'on va, on va mettre la main sur nos valeurs humanistes. On va dire, bon, ben, ils se noient, ben là, quoi, bon, vous savez. Bon. Déjà là, on dit rien, en fait. Hein. On est tous malheureux. Attendez, on n'est pas des bêtes. On est tous malheureux, mais qu'est-ce qu'on se dit? Bah, s'il en faut 5 000 qui se noient par an pour qu'il n'y en ait pas plus qui arrivent, finalement, c'est pas cher payé. Je suis un peu violent en disant ça. Mais au fond, sinon, on enverrait des ferry boats à Tripoli, et puis, parce que la plupart de ceux qui traversent ont le droit de venir. Parce qu'ils sont réfugiés politiques, etc. Pas tous. Ceux qui n'ont pas le droit, il faut pas qu'ils viennent. Mais enfin, la plupart, ces familles, ces petits-enfants syriens, ils ont tout à fait le droit de venir. Ils pourraient très bien monter sur un ferry boat à Tripoli.
Contre l'indifférence, donc, ce livre, Quand la Méditerranée nous submerge, c'est aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Jean Viard.
Merci de l'invitation.
D'être venu au micro de France Inter. Dans quelques instants, 18h32, le journal de l'International.
Brothers and sisters, you never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall
for what you have done,
fall, hurting so many people, and you have no mercy. To call your home, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall,
let them fall,
for what you have done. You have no mercy, no pity for the little children. So let them fall. You have done
from your eyes.
Let the teardrops fall,
let them fall,
for what you have done.
You show
no mercy,
let the
no pity on the little children.
Let the teardrops fall
down to the ground. Now that you're all alone and you have no one
let
to call your own.
Let the water run dry, de Ken Booth, 18h34.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, Mickaël, rencontre avec un artiste russe engagé, exilé en France depuis peu, car militant anti-Poutine pour le moins radical.
Ah oui, vous allez comprendre pourquoi. Piotr Pavlansky, c'est son nom, est né à Leningrad il y a 33 ans et qui a surgi sur la scène de l'art politique russe à Moscou en juillet 2012. Premier fait d'armes médiatique dans sa dénonciation du régime Poutine. Une photo, simple portrait en très gros plan, lui, la bouche cousue de gros fils rouges, sa façon extrême de soutenir les Pussy Riot, et vont suivre comme cela d'autres actions artistico-politiques, d'autres photoshocks dont certaines ont fait le tour de la planète. Piotr, complètement nu, enroulé dans des fils barbelés. Piotr, toujours nu, se clouant le scrotum sur les pavés de la Place Rouge à Moscou. Ou encore Piotr, toujours nu, grimpé sur le mur de l'Institut psychiatrique Zerbski à Moscou, en train de se couper le lobe de l'oreille droite. Alors qui est-il exactement? Que veut-il exactement? Eh bien c'est ce qu'on découvre dans le cas Pavlansky, La politique comme art, titre de cet essai sous forme d'entretien avec l'artiste qui vient de paraître aux éditions Louison. Et on a pu rencontrer Piotr il y a quelques jours ici à Inter. Première question que je lui ai posée, se considère-t-il d'abord comme un artiste ou comme un militant politique? Réponse.
Non, il est certain que je ne suis qu'artiste et en tant qu'artiste, je fais de l'art politique. Je suis persuadé que pour avoir une présence politique, il est largement suffisant de faire de l'art. Il ne faut pas que l'artiste fasse séparément de l'art, d'une certaine manière, disons pendant la moitié de sa journée, et puis qu'il consacre le reste de sa journée à ses activités politiques ou civiques. Parce que les deux sont des choses inséparables. Il est impossible que l'une soit un hobby et l'autre son métier, quel qu'en soit l'ordre. Il y a la vie de l'artiste qui est indissociable du contexte politique.
Voilà, art et politique indissociables. Mais pourquoi alors passer par cette violence extrême? Pense-t-il que s'il ne se fait pas mal, le public ne va pas réagir, va rester indifférent? Piotr Pavlansky.
Je ne me fais pas de mal du tout. Ce que je fais, c'est de démontrer la situation dans laquelle se trouve aussi bien la société russe dans sa totalité, en tant que corps social, et d'un autre côté, chaque individu parmi ceux dont cette société est composée. C'est une situation qui existe réellement, et les gens la vivent en Russie, mais la vivent de manière dispersée. Chaque jour, une personne sera confrontée à ce genre de problème, ce ne sera pas facile pour elle, elle pourra peut-être avoir mal à certains moments, mais étant donné que ce n'est pas une dose concentrée, tout le monde pense que c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'évident. Alors que moi, je formule ce qui se passe avec l'individu en particulier et la société en général.
Et on en vient justement au but politique et intellectuel. Que cherche-t-il à montrer, à dénoncer?
Tout d'abord, je voulais démontrer dans quelle position se trouve l'humain et la société dans ce régime. C'est une chose. La deuxième, c'est que ce qu'il y a de plus terrifiant, de plus monstrueux, c'est le fait pour l'État d'avoir pris le contrôle total sur tous les domaines de la vie de l'individu. La raison pour laquelle nous avons dû quitter la Russie et étions contraints de demander l'asile politique en France, c'est le fait qu'en Russie d'aujourd'hui, le système de délation est apparu à nouveau. La délation a été la méthode utilisée pour nous soustraire au contexte russe. Ces méthodes permettent à l'État d'avoir un contrôle total sur toutes les sphères de la vie d'un individu et permettent de le surveiller, le contrôler et utiliser, si besoin, les informations pour détruire la vie d'une personne, pour débarrasser de quelque chose qui dérange le régime.
Voilà, délation généralisée, censure, répression, propagande permanente, tout cela sur fond de nationalisme haineux qui ressurgit. Alors comment qualifie-t-il cette Russie d'aujourd'hui qu'il vient de fuir ? Réponse.
La Russie a un système de pouvoir avec une verticale très rigide. La Russie a recréé le système de délation. La Russie a déjà établi un contrôle total sur toutes les sphères de la vie d'un individu. Donc, quelles que soient les choses que l'État essaie de faire pour se montrer en bien dans un contexte de politique internationale, les choses que fait la Russie sont évidentes à tout le monde. Elle annexe les territoires appartenant à l'Ukraine, elle lance la campagne en Syrie. La Russie est vraiment un pays qui reste gouverné par des idées chauvinistes et impérialistes. Par contre, je ne sais pas comment nous pouvons désigner ce régime et les processus qui sont à l'œuvre. Je pense que trouver un terme ne devrait pas poser problème, mais l'important, c'est de comprendre ce qui se passe.
Et pourtant, précisément, Vladimir Poutine, on sait, a été triomphalement réélu président en 2012, comme si l'opposition russe n'existait pas. Pourquoi ? Eh bien, réponse toute simple.
Je dirais qu'il n'y a aucune raison de croire que Poutine ait été élu démocratiquement. Poutine n'a pas d'opposant réel. Il n'y a qu'un seul parti politique important en Russie aujourd'hui, Russie Unie, avec quelques satellites qui font semblant d'être des partis distincts, voire semblant de faire partie de l'opposition. Mais en réalité, la plupart d'entre eux sont des entités dépendantes de Russie Unie, même s'ils défilent sous d'autres bannières. C'est tout la même chose. Poutine n'a pas de vrai opposant.
Et pour finir, je lui ai demandé ce qui, à ses yeux, pourrait faire que la majorité des Russes ouvre les yeux et lâche Poutine. Est-il encore optimiste, Piotr Pavlansky?
Je ne sais pas ce qu'il doit se passer en Russie pour que dans la société ou ce qu'il nous en reste, car tout ce qui est constitué cette société, les personnalités, beaucoup d'entre elles ont été incarcérées ou ont dû quitter le pays. Nous avons quelques marginaux, surtout les couches de la population population qui se base sur l'idée, qui base leur idée sur ce qu'ils entendent à la télé. Et je ne sais pas ce qui doit se passer pour que les yeux s'ouvrent. Nous avons pu voir que tous les événements, quoi qu'ils se passent même à côté des gens ou ailleurs dans le pays, le réflexe sociaux sont très faibles. Je ne pense pas qu'il y ait d'optimisme vis-à-vis de la Russie. J'étais peut-être optimiste il y a 4 ans, mais quand je vois ce qui s'y passe maintenant, cela ne laisse pas une seule miette d'optimisme en moi.
Voilà, pas rose, hein. Piotr Pavlansky, donc artiste russe, radical, radical dans son engagement anti-Poutine et ses actions artistiques, à découvrir donc plus en détail dans le cas Pavlansky, la politique comme art, c'est aux éditions Louison.
Et direction maintenant les États-Unis, Michael, avec les suites du scandale Flynn.
Et scandale qui prend de l'ampleur. Alors pour rapidement vous resituer les choses, Michael Flynn a donc dû démissionner lundi soir de son poste de conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, sa faute avoir évoqué les sanctions imposées à la Russie avec l'ambassadeur russe lui-même. Et alors que Flynn n'avait encore aucune fonction officielle dans l'administration présidentielle, formellement interdit par la loi américaine, ça c'est le point de départ. Bonsoir Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Michael.
Alors depuis cette première révélation, Frédéric, d'autres ont suivi et qui nous ramènent très en arrière dans la campagne de Donald Trump.
Oui, période différente, enquête du FBI, à chaque fois les questions posées dans les deux cas disent la gravité du sujet. Dans l'affaire Flynn, il s'agit de savoir en fait si Donald Trump a demandé à son conseiller de sécurité nationale, avant même son investiture, de rassurer les Russes sur ses intentions en matière de sanctions. Et là, dans ces révélations du New York Times, la question c'est, est-ce que l'entourage du candidat Trump avait discuté avec les Russes du piratage de la campagne Clinton? Pour le moment, dans le contenu des échanges, rien ne vient le démontrer, mais une chose est frappante, c'est la fréquence des contacts pendant l'été dernier, au moment où le FBI commence à enquêter sur cet espionnage russe et où Donald Trump, sur le ton de la semi-plaisanterie, suggère publiquement à Moscou de retrouver et de dévoiler les emails manquants de la candidate démocrate. Les agences de renseignement parlent d'échanges constants pendant cette période. Alors un seul nom est cité, celui de Paul Manafort, à l'époque directeur de campagne de Donald Trump. C'est un homme qui fait des affaires avec la Russie. Il dément toute collusion, idée absurde. Je n'ai jamais parlé avec des agents russes. En toute connaissance de cause, précise-t-il quand même, à la Maison Blanche, on reste sur la ligne. Aucun contact avec Moscou pendant cette période. Faut se souvenir quand même que Paul Manafort a été brutalement écarté à la fin de l'été.
Oui, mais le débat désormais aux États-Unis, hein, c'est donc Trump et les services de renseignement américains.
Pour faire simple, on peut même dire que la guerre est repartie et que les mots du président américain sont forts sur son compte Twitter. Il dénonce des informations illégalement fournies par le FBI ou la NSA, anti-américain, ajoute Donald Trump, qui suggère qu'il s'agit de méthodes habituellement de la Russie. Lors de précédentes révélations, il avait même parlé de méthodes nazies. Il est vrai que les enquêtes du FBI ont un côté poupée russe avec trois volets plus ou moins directement liés, l'affaire Flynn, la période campagne électorale et le dossier russe sur Donald Trump. Le président américain n'est pas loin de considérer qu'il s'agit d'un complot mené par des gens qui le considèrent comme illégitime. Nous voilà de retour à une certaine période de la guerre froide, sauf que le FBI n'est plus dans le rôle du procureur, mais de l'accusé. Toujours est-il que la confusion au sein de la Maison-Blanche et que ce conflit ouvert avec les agences de renseignement crée un climat délétère, un général très respecté parlait ainsi hier de chaos qui pouvait être dangereux pour la sécurité nationale.
Merci Frédéric Carbone en direct de Washington. On vous retrouvera à 19h pour un tout autre sujet et on va reparler de l'affaire Flynn dans 4 minutes avec Julien Baldacchino.
Et après Washington, Michael, on part maintenant à Tunis où le grand débat du moment concerne la future loi sur les stupéfiants.
Et pour comprendre le contexte, écoutez simplement ces 9 petites secondes.
Je vivais une vie tranquille jusqu'à que j'étais chopé par des flics en civil. Tac, tac, ils m'ont fouillé, ils ont trouvé une feuille à rouler et c'est parti.
Et c'est parti, nous dit Seif, qui comme des milliers d'autres jeunes Tunisiens a été condamné à 1 an de prison, 1 an pour avoir fumé 1 joint de cannabis. Car c'est la loi aujourd'hui en Tunisie. Toute personne reconnue coupable d'avoir consommé 1 fois de la drogue écope au minimum 1 an ferme. Loi très répressive, adoptée sous le régime Ben Ali et qui permet parfois à la police de faire pression sur des artistes, des rappeurs, des blogueurs par exemple, considérés comme gênants pour le pouvoir. Résultat, la majorité des détenus tunisiens sont aujourd'hui incarcérés pour une simple et modeste affaire de drogue. Bonsoir Justine Fontaine, correspondante d'Inter à Tunis.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors cela concerne un peu plus d'un tiers des prisonniers du pays, vie bouleversée le temps d'un joint.
Oui, c'est le cas de Saïf Matmati, 26 ans, qu'on a entendu au début du reportage. Il était étudiant, avec un ami, il venait de créer une entreprise. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec des prisonniers de droit commun et des hommes accusés de terrorisme, tous ensemble dans une cellule surpeuplée.
100 personnes, c'est la moyenne, quoi. C'est, on dirait, elle est vide. Les gens dorment 3 par 2 matelas, toute la chambre, ça c'est l'énorme.
Saïf est finalement resté 7 mois derrière les barreaux. Comme beaucoup d'autres, il a été relâché lors d'une grâce présidentielle, mais depuis il ne peut plus travailler à cause de son casier judiciaire.
Les conséquences très lourdes aussi, hein, Justine, pour les familles.
Absolument, surtout pour sa mère qui devait subvenir du coup seule aux besoins de toute la famille et de son fils en prison.
Une fois par semaine, ma mère vient avec, elle rapporte plein de bouffe pour moi, elle rapporte de l'argent pour que j'achète des cigarettes, qu'elle a fait déjà 8 ou 9 heures de travail après, elle prend le 2 ou 3 bus pour arriver en prison. Je sentais qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert déjà.
Saïf raconte aussi que rien que dans sa rue, en banlieue de Tunis, 7 jeunes ont déjà fait de la prison à cause du cannabis.
Et justement, hein, depuis la révolution de 2011, la société civile tente de s'organiser, enseignants, avocats, artistes, rappeurs ou blogueurs essentiellement, qui appellent à supprimer cette peine automatique d'un an de prison, non à la peine planchée, Justine.
Oui, Mickaël, et un avocat aussi en a fait son principal combat, il s'appelle Razim Rabet. Il a défendu justement plusieurs rappeurs et blogueurs incarcérés à cause de cette loi sur les drogues.
On peut citer l'exemple du rappeur Kly BBG qui a été arrêté aussi parce qu'on sait que Kly BBG particulièrement et le rap en Tunisie a toujours un discours anti-système et donc on sent que la police utilise cette loi à chaque fois pour menacer et pour terroriser les voies libres.
Et le débat a finalement été mis sur la table pour la première fois officiellement lors de la campagne électorale de 2014. L'actuel président avait promis de réviser cette loi sur les drogues. Justine, où en est-on aujourd'hui, 2 ans et demi après ?
Eh bien, Mickaël, un projet de loi est en débat en ce moment, à l'Assemblée, en commission. Mais pour l'instant, difficile de dire à quoi cela aboutira. Hein. Agir Benchek Ahmed est membre de la commission parlementaire concernée. Il y a 6 mois seulement, elle était encore contre la dépénalisation, mais elle a changé d'avis.
Cette loi, en fait, qui est très répressive, n'a pas donné les effets escomptés. Il faut aujourd'hui alléger les sanctions et enlever la prison pour les jeunes qui utilisent les drogues à usage personnel, mais augmenter les peines pour les dealers, les trafiquants et surtout les contrebandiers sur les frontières.
Cela dit, Mickaël, assez peu de parlementaires défendent ouvertement un avis similaire au sien. D'ailleurs, l'un des points d'interrogation sur ce sujet, ce sont les islamo-conservateurs d'Enarda. Pour l'instant, le parti majoritaire à l'Assemblée n'a pas officiellement décidé de sa position sur la question.
Et réponse dans quelques semaines ou quelques mois. Merci Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis. Et Nicolas, à demain.
À demain, Mickaël.
Un jour dans le monde. Sur France Inter.
Un jour dans le monde numérique. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Pour commencer, Julien, direction les États-Unis où l'administration Trump tente de se défendre après les accusations, on en disait un mot à l'instant, contre le conseiller démissionnaire Michael Flynn.
Oui, et depuis hier, la Maison-Blanche tient sa position sur la question des conversations qui se sont tenues avant l'investiture de Trump entre Flynn et l'ambassadeur de Russie. Voilà ce qu'a dit devant la presse hier le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.
Le conseil de la Maison-Blanche a vérifié et a déterminé qu'il n'y a aucun problème légal, plutôt un problème de confiance. Quand le conseil a présenté l'information au président, il a pensé instinctivement que le général Flynn n'avait rien fait de mal.
Problème de confiance, donc plus que souci légal. Or, selon la presse américaine aujourd'hui, Donald Trump était au courant depuis près de 3 semaines que son conseiller était susceptible d'être victime de chantage de la part de la Russie. Aujourd'hui, c'est le président lui-même qui a réagi sur Twitter, comme à son habitude, en dénonçant les fuites d'informations.
Donald Trump, Julien, dans le téléphone, inquiète deux sénateurs.
Deux sénateurs démocrates, oui, qui ont adressé une lettre lundi à l'administration Trump pour demander une mise au point sur la sécurité du téléphone du président. Tom Carper et Claire McCaskill demandent officiellement à savoir si Donald Trump utilise bien un téléphone crypté et sécurisé. C'est une enquête du New York Times fin janvier qui avait révélé que le nouveau président utilisait encore son vieux smartphone. La question est donc de savoir si celui-ci a été sécurisé avec, par exemple, une désactivation de la caméra selfie. Il y a un véritable enjeu de sécurité nationale derrière ça, d'autant plus que si Donald Trump utilise ce téléphone pour tweeter, ça signifie qu'il est connecté à Internet et pas forcément sur des réseaux sécurisés. Souvenez-vous, c'est justement parce qu'elle avait envoyé des mails professionnels via sa messagerie personnelle qu'Hillary Clinton avait été épinglée par le FBI pendant la campagne présidentielle.
Et puisqu'on parle de Twitter et en dépit des tweets présidentiels, le réseau social bat de l'aile.
Oui, le petit oiseau bleu ne se porte pas aussi bien qu'on le croit. La firme est en train de se laisser dépasser par son principal concurrent Weibo, son équivalent chinois, un nom qui pèse désormais 11,3 milliards de dollars en bourse contre 11,1 pour Twitter. Alors malgré la suppression de sa filiale Vine et surtout de 350 emplois, Twitter n'est toujours pas rentable. Au quatrième trimestre de 2016, elle a enregistré 167 millions de dollars de pertes. Au total, depuis son entrée en bourse en 2013, Twitter a perdu 1,5 milliard de dollars.
On file au Japon, Julien, où une start-up tente de lancer un nouveau moyen de paiement.
Et alors qu'en France, le paiement sans contact creuse petit à petit son trou, au Japon, on peut désormais payer en QR code. Vous savez, ces petits symboles interactifs en noir et blanc qu'on photographie. C'est une start-up nommée Primo qui a lancé ce nouveau mode de paiement et ça se veut très simple. Voilà ce que dit la présentation.
Vous êtes en train de regarder la pub à la télé et vous voyez un produit qui vous plaît. Vous lisez un magazine ou vous vous promenez, vous voyez quelque chose qui vous fait envie. Visez le logo avec votre téléphone pour l'ajouter à votre panier et passez commande. Le marchand vous enverra automatiquement l'objet.
Un projet qui a une base solide car autant chez nous les QR codes sont très peu utilisés, autant au Japon ils cartonnent depuis le milieu des années 90. L'entreprise est même en train de travailler sur une levée de fonds $1 million pour s'étendre également au marché chinois.
Et enfin, Julien, un appareil mythique s'apprête à faire son retour.
Oui, et vous connaissez sûrement sa sonnerie très caractéristique. L'entreprise finlandaise qui a repris les droits de la marque Nokia va dévoiler fin février une nouvelle version du Nokia 3310, le téléphone qui est considéré comme le plus fiable et le plus solide de l'histoire et qui est emblématique pour toute la génération qui a découvert le portable au début des années 2000 avec un prix compétitif, 50 €. Et pour l'instant, on sait une seule chose, c'est qu'il sera possible de jouer au fameux jeu du serpent sur ce portable.
Julien Baldacchino, merci. Dans quelques instants, juste après Tina Turner, Arnaud Le Parmentier. Marie, comme on dit en français.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Aujourd'hui, la suite de la crise grecque.
Dans Ibis Repetita, on a l'impression d'un feuilleton interminable. De nouveau, les Européens se penchent sur le dossier. Il faut valider les réformes du Premier ministre Alexis Tsipras pour pouvoir lui donner de l'argent. Il y a urgence, le pays a besoin de 7 milliards d'euros cet été. Il faut faire vite, avant les élections néerlandaises, avant que commence la campagne électorale allemande. On tourne toujours en rond. Tous les ans, on prête aux Grecs pour qu'ils puissent nous rembourser l'argent qu'on leur a prêté juste avant.
Et des prêts sur combien de temps, Arnaud ?
Mais c'est ça, 30 ans, Nicolas. Oui, vous m'avez bien entendu. L'Europe a prêté à la Grèce 175 milliards d'euros, après bonifié environ 1%. Et quoi qu'en dise le FMI, cette dette gigantesque est soutenable, mais à la condition expresse que la Grèce reste sous la tutelle des Européens pendant ces 30 années et accepte les réformes dictées de Bruxelles. Voilà l'absurdité de la situation. 1. Ce n'est pas très démocratique. 2. C'est excessif, parce parce que nul pays ne peut durablement dégager un excédent de 3,5% du PIB, comme le demandent les Européens pour rembourser la dette. 3, c'est injuste parce qu'une génération va payer les fautes de ses parents, voire de ses grands-parents.
Donc, il faut alléger le fardeau de la Grèce, Arnaud, comme l'exige le FMI d'ailleurs.
Et c'est là que l'on se heurte au Nein de Wolfgang Schäuble. Le ministre allemand des Finances a plusieurs arguments. 1, c'est interdit par les traités européens. 2, il n'y a pas de majorité au Bundestag pour voter une telle aide. Et ce sera pire après les élections de septembre, quand l'AFD, le parti anti-euro d'extrême droite, sera entré au Bundestag. 3, surtout, comment effacer l'ardoise sans s'être certain que les Grecs ne récidiveront pas. Oui, on l'a vu, ce pays est en faillite depuis son indépendance en 1830. Le traité de Maastricht impose de se comporter en allemand. Eh bien, les Grecs n'y arrivent pas et ils ont besoin de l'arme de la dévaluation monétaire. Eureka, j'ai trouvé la solution, vous allez voir. Il faut effacer la dette des Grecs, de toute manière on ne la récupérera jamais, et organiser en même temps sa sortie de l'euro. Faire à la fois du Schäuble et du FMI. On réparerait ainsi une faute commise en 2000. Jamais la Grèce n'aurait dû entrer dans l'Union monétaire. Ce serait compatible avec les traités européens, car l'interdiction de renflouement ne concerne que la zone euro. Alors le montant de l'addition, Nicolas, c'est 120 milliards d'euros, mais pour solde de tout compte. Il faut qu'in fine l'endettement en drachmes de la nouvelle Grèce soit égal à 60% du PIB. Rendons aux Grecs leur liberté en les boutant hors de l'euro.
Et pour quelle raison, Arnaud ?
Le pays a retrouvé le chemin de la croissance. Il dégage un excédent touristique extraordinaire. Il a fait des réformes profondes. Ses coûts unitaires salariaux ont retrouvé des niveaux compétitifs. Bref, toute l'austérité que je vous vante depuis 2 ans, Nicolas, porte ses fruits. Et c'est pour ça qu'il devient possible de sortir de l'euro. Ce serait une opération à froid, qui n'entraînerait pas une envolée des taux d'intérêt ou une faillite immédiate. On peut imaginer que la drachme, à l'avenir, soit liée à l'euro, comme l'est la couronne danoise. L'affaire n'empêcherait pas d'aider la Grèce, comme l'Europe aide aujourd'hui la Pologne. Elle n'empêcherait pas de l'aider en cas de difficulté, comme le fit le FMI avec la Hongrie. Mais cette libération permettrait de sortir d'un huis clos familial entre pays membres de l'euro, de cette prise d'otages réciproque devenue délétère. D'autant que le reste de la famille euro va devoir augmenter profondément son intégration économique si elle veut survivre, autour des pays fondateurs de la péninsule ibérique. La zone euro doit rétrécir. Commençons par la Grèce.
Eh bien, merci Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur l'emploi et le chômage dans les banlieues françaises. Cette dure réalité économique et sociale est moins spectaculaire que les émeutes et les échauffourées de ces dernières nuits, mais autrement plus difficile à régler. D'ailleurs, le sujet, vous avez pu le remarquer, est totalement absent de la campagne présidentielle, en tout cas pour l'instant. Vos questions, vos témoignages aussi, intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson. Dans 40 secondes exactement, le grand, l'immense Sébastien Paour.